Loire FM, aux portes du Dauphiné, 107. L'invité.
Après des études supérieures à l'école du Trésor en France, Dieudonné Wasoua est rentré servir son pays, la toute jeune République centrafricaine. Devenu ministre des Finances, il veut œuvrer à développer son pays, mais l'histoire et sa découverte de la foi lui ouvriront d'autres horizons. Dieudonné Wasoua est avec nous pour parler de son histoire, accompagné de Sylvie Loyal, l'auteur du livre « De l'autre côté du fleuve » paru fin septembre aux éditions Palanquet, qui reprend le parcours de l'homme politique. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors on va commencer par vous, Dieudonné Wasoua. Pourquoi avoir voulu raconter votre histoire dans un livre ?
Je voudrais, à un certain moment de ma vie, m'arrêter et puis voir le passé et donner pour l'avenir à mes petits-enfants, à mes enfants, à mes amis, quelque chose sur moi, et puis essayer de voir comment j'envisage l'avenir. Et puis peut-être passer un message aux générations futures.
Pourquoi maintenant ?
Peut-être une conjonction de bonnes étoiles, de belles étoiles, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, voilà, c'est des opportunités qui se sont présentées. Et puis, on était tous les deux, tous les trois même, avec l'éditeur en phase à ce moment-là pour commencer ce projet et c'est parti tout seul.
Comment il s'est fait justement alors ce projet, ce livre de l'autre côté du fleuve sorti en septembre ?
C'est un gros travail d'équipe, c'est un travail déjà de recueil de l'information pour moi avec Dieudonné Wasoua. C'est aussi un accompagnement de l'équipe éditoriale et je pense que pour le coup, le projet a quelque chose de l'équipe qui se monte et des actions des uns et des autres qui se complètent. Donc voilà, c'est vraiment un projet dans le sens de l'aventure, dans le sens de la coopération, de la collaboration et voilà.
Pourquoi avoir choisi ce format biographie et pas autobiographie ? Finalement, pourquoi est-ce que ce n'est pas vous, Dieudonné Wasoua, qui avez écrit votre propre histoire ?
Peut-être écrit moi-même personnellement, je trouverais peut-être pas les mots assez... Est-ce que je vais peut-être trouver des mots très durs pour le faire ? Et surtout... En tant qu'Africain, je ne vois pas les choses de la même manière que quelqu'un qui serait en dehors, à l'Occident, qui verrait avec un œil occidental ce que j'ai vécu et peut-être présenter à ses lecteurs qui vont venir et voir les choses autrement. C'est pour cette raison que j'ai préféré plutôt avoir l'écriture de Sylvie Loyal pour évoquer tout ça avec elle et puis aussi avec les éditeurs pour voir comment ils perçoivent ce que je dis à l'extérieur.
Et vous, du coup, Sylvie Loyal, comment ça s'est passé ? Vous avez rencontré, j'imagine, Dieudonné plusieurs fois, comme ça, pour discuter, pour échanger. Qu'est-ce qui vous a marqué dans son histoire ? Qu'est-ce qui vous a fait vous dire « Oui, je veux écrire cette histoire ?»
Je pense qu'avant même le projet, il y a la relation qui s'était déjà créée, la relation amicale. Et je pense que, en côtoyant Dieudonné, en le voyant évoluer, il n'y a pas eu de souci pour moi de me mettre au service de ce récit. Parce que j'avais déjà une belle relation de construite avec lui. On a continué comme ça.
Cette histoire, vous la connaissiez, du coup, elle vous parlait ?
Non, je ne la connaissais pas du tout, son histoire. J'avais des bribes d'informations de temps à autre, lorsque, voilà, on discute. De temps en temps, il nous sortait une anecdote et on trouvait ça déjà très fou. Parce que le voyant comme ça, très posé, on ne se doute pas qu'il a passé autant de péripéties dans sa vie et qu'il a eu autant de vie dans une vie. Ces anecdotes ont marqué quelque chose. Lorsque j'ai commencé à faire le lien entre toutes ces anecdotes, je me suis rendu compte qu'il avait eu des choix à faire dans sa vie. Ces choix n'avaient pas été évidents. Et que finalement, il y avait quand même quelque chose qui conduisait un fil rouge qui était du début de sa vie jusqu'à maintenant. Et c'est ce fil rouge qui est mis en exergue dans le livre. Sans éventrer le secret de la biographie, je peux d'ores et déjà vous dire que c'est sa rencontre avec Dieu qui, je pense, qui fait la différence entre un avant et un après.
On va en parler de cette rencontre avec Dieu, puisque cette histoire, c'est la vôtre, Dieudonné Wasoua. Comment ça s'est passé ? Comment est-ce que vous avez trouvé la foi, comme dit l'expression ? En tout cas, qu'est-ce qui a été ce déclic-là ?
D'abord, j'ai fait la politique, comme je le raconte. Je voulais donc pouvoir aller plus loin possible dans la vie politique. Et voilà que, au cours de cette vie politique agitée, on sait, la vie politique c'est parfois difficile, c'est l'élimination des autres, dominer les autres pour avancer, etc. Et c'est à partir de ce moment-là que je vais rencontrer une personne qui est connue comme ça pour moi. Cette rencontre va m'amener sur le chemin, finalement sur le chemin de Dieu.
Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie ?
Voir les autres autrement, c'est-à-dire voir la vie, m'arrêter et voir que tout n'est pas toujours joyeux. et puis voir il y a peut-être quelque chose de meilleur ailleurs, et chercher ce qui est meilleur. Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le pouvoir? Ou c'est une autre chose? Et je crois que c'est là aussi qui m'a amené à rencontrer ce Dieu-là, qui est un Dieu merveilleux.
Ça a changé votre manière de faire de la politique? Ça a vraiment changé votre vie?
Oui, c'est de voir que la politique telle que nous le concevons en tant qu'humains, on se voit que c'est une mauvaise chose. C'est-à-dire l'ennemi, c'est l'homme en tant que tel est utilisé autrement. Alors qu'on devait voir l'homme qui est la base de toute civilisation, que la famille, c'est la base de tout. En politique, on ne voit pas ça comme ça. Et maintenant, je me rends compte que voir celui qui est en face, c'est différent. Politiquement, c'est différent. Et aussi, spirituellement, c'est autre chose.
Quand vous êtes rentré dans la politique, quand vous avez gravi les échelons, la République centrafricaine était toute jeune indépendante. Son histoire a toujours été chaotique, compliquée. Comment vous vous situiez là-dedans, dans cette histoire de coup d'État, de tentative de coup d'État?
C'est toujours assez compliqué d'expliquer la situation. C'est une question de culture aussi. À un certain moment, parce que la culture africaine, et surtout centrafricaine, est basée sur la famille. L'individu est le socle en quelque sorte. La famille qui constitue l'ensemble des individus doit être pris en compte. Et en Afrique, la famille est plus importante. Donc, toutes les politiques devaient se baser sur comment améliorer la vie d'une personne, la vie de la famille, donc les jeunes, la femme, comment on doit le voir, qu'est-ce qu'on peut leur apporter. Et moi, je crois que c'est le premier président, celui qui était à la base de la création de la République centrafricaine, Barthélemy Boganda, qui était un prêtre. Il voyait peut-être les choses autrement. Et il a dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est de dire que l'homme est un homme tel que ce qu'on doit faire de lui, l'homme, il y a l'égalité, donc il faut lui apporter le soin, donc l'éducation, lui apporter la nourriture qu'il faut pour le développer, pour qu'il soit apte à faire ce que le pays a besoin. Je me suis lancé là-dedans, je dis, pourquoi pas essayer d'apporter quelque chose à la République centrafricaine. Moi, j'étais jeune, donc il fallait donc m'engager dans cette voie. Et puis au fur et à mesure, je me rendais compte que la vie politique est un combat dangereux. Dangereux dans la mesure où on élimine donc la population, cette base de la famille qui est la base de toute politique. On élimine, on l'écrase pour asseoir sa politique, asseoir son pouvoir, asseoir et puis avoir beaucoup d'argent, beaucoup de... Et ça, je me rends compte qu'effectivement, non seulement en Afrique, mais aussi ailleurs, la politique est autour. Et l'Afrique envisage une voie qui est, à mon avis, plus dangereuse encore parce qu'on doit l'éliminer, même physiquement. En faisant la politique, on se rend compte qu'on a beaucoup de responsabilités parce qu'on ne va pas voir que l'individu, mais on va voir sa famille, sa tribu, tout ce qui est autour. Et là, c'est une responsabilité très importante et je me suis rendu compte que cette voie-là, elle est dangereuse.
Dangereuse, c'est aussi tout ce que vous racontez dans ce livre, tout ce que vous écrivez, Sylvie Loyal, là-dessus. L'intégrité physique a été remise en cause, il y a eu un vrai danger sur votre vie.
Ah oui, ah oui, je l'ai dit dans le... Et là, je crois que Sylvie Loyal a trouvé des mots, mon sentiment, il l'a exprimé dans des mots assez clairs qui permettent au lecteur de cheminer avec moi dans cette aventure qui est quand même parfois dangereuse parce que j'ai frôlé la mort, j'ai été dans les prisons d'État, j'ai vraiment frôlé la mort et je me suis rendu compte qu'il y a une main forte qui m'a toujours sorti de là. Et je voudrais que les jeunes générations futures apprécient bien avant de s'engager dans cette voie qui est parfois périlleuse et difficile.
Vous n'aviez pas la foi encore quand vous avez eu toutes ces péripéties? C'est le terme que vous utilisiez au début de cet entretien.
J'avais des parents qui étaient témoins de Jéhovah. Mon père était d'abord catholique et puis après il est devenu témoin de Jéhovah par ma tante qui m'a élevé. Et donc j'approchais, j'étais dans ce cercle. Après, il y a eu donc le travail, la famille, la politique a suivi. J'étais éloigné un peu de cette situation. Je me suis lancé vraiment dans la politique. Je me voyais de plus en plus aller vers le devant, aller plus loin, chercher à aller plus loin, toujours plus loin, gagner un peu plus d'argent. Et c'est à partir de ce moment-là que je me dis, ces choses, c'est bon, mais qu'est-ce qui est meilleur ? Lorsqu'on s'arrête, on commence à se poser des questions. Il y a une force extérieure que nous qui nous amène sur une voie peut-être au croisé des chemins et dit bon, maintenant tu peux choisir. Et
là, c'est l'autre côté du fleuve, donc.
Ouais, donc choisir le côté, le bon côté. le bon côté du fleuve.
Comment est-ce qu'on met des mots sur autant de réalités différentes, sur un parcours politique, sur l'histoire d'un ministre, sur l'histoire d'un ministre qui a eu sa vie a été en danger? Comment est-ce qu'on arrive à mettre des mots là-dessus, Sylvie?
On prend juste le temps déjà d'écouter, avec attention, d'écouter de façon active, en posant des questions aussi. Le fait que je ne sois pas de Centrafrique amenait peut-être quelque chose de différent, ou les réalités qu'il pouvait décrire Dieudonné, qui étaient évidentes pour lui, j'avais besoin qu'il me les réexplique, parce que je ne suis pas du pays. Dans cette conversation, dans ce va-et-vient entre le protagoniste et l'auteur, on arrive à trouver petit à petit le terme juste, le terme qui correspond, le ton juste, en fait, de l'histoire. Mais voilà, c'est vraiment un échange permanent.
Parce que justement, ce livre, il est accessible, il n'y a pas besoin de connaître l'histoire de la Centrafrique pour arriver à découvrir cet ouvrage.
Exactement. Ce regard-là, c'est un regard, je dirais presque universel, parce que il parle à tout un chacun, même en n'ayant pas, enfin, par exemple, moi, je n'ai jamais mis les plis en Afrique. Et pourtant, voilà, c'est une histoire qui m'a touchée et qui me parle encore.
Qu'est-ce qui vous a touché? Vous dites que cette histoire vous a touché. C'est quoi? C'est la sincérité de cœur? C'est les péripéties? C'est comment Dieu s'est manifesté? Qu'est-ce qui a vraiment touché votre cœur dans cette histoire-là, dans ce parcours?
C'est le fait de voir que même lorsque les choses paraissent complètement décousues, sans sens, sans but, lorsqu'on y réfléchit un tout petit peu, on se rend compte qu'il y a quand même quelque chose qui dirige les choses. Et pour les croyants, ce quelque chose, on l'identifie comme étant Dieu, comme étant voilà, cette force qui nous dépasse tous, et de savoir qu'on n'est pas juste abandonné au gré et au vent des difficultés, des coups d'État et autres, de savoir qu'il y a un plan, qu'il y a un but, je pense que c'est rassurant, et de le voir exprimé de si belle manière dans l'histoire de Dieudonné, je pense que ça, pour ma vie aussi, ça m'apporte et ça me conforte dans l'idée que voilà, on n'est pas tout seul et on est accompagné et de belle manière.
Sans dévoiler le contenu de l'ouvrage, est-ce qu'il y a peut-être une anecdote chacun, quelque chose qui vous a particulièrement, vous avez dit toi, ou celle-ci, cette partie de l'histoire est juste folle? Quelle anecdote a pu particulièrement vous rester en tête?
Je pense à l'une de ces situations où il était en danger de mort, Dieudonné Wazoua. Il venait de réchapper à un accident plus que, voilà, il n'y avait pas eu que de la tôle froissée. Et lorsqu'il arrive aux urgences, le médecin qui est présent ce soir-là lui sort quelque chose qui me touche beaucoup. C'est qu'il lui dit: mais franchement, monsieur Wazoua, vous êtes sorti de cette voiture qui est complètement réformée, on ne peut rien en faire. Les occupants de la voiture sont tous soit dans le coma, soit avec des blessures très graves, etc. Et vous avez juste un petit mal de tête, voilà, et c'est comme si vous n'y étiez pas du tout, et pourtant si. Vous avez vraiment une bonne étoile qui vous guide. Venant d'un scientifique, de quelqu'un qui est très rationnel, très porté sur le fait réel, de sortir ça à ce moment-là, je trouve que voilà, c'était déjà un beau clin d'œil.
Et vous, du coup, Dieudonné Wazoua, quelle anecdote vous aimeriez partager particulièrement avec nos auditeurs aujourd'hui?
Le fait que je me retrouve en face de quelqu'un qui m'a fait mal, qui m'a mis en prison, qui voulait ma mort. Et puis, je constate que maintenant, il doit être devant le tribunal. Et moi, j'étais le témoin. J'étais le témoin qui doit raconter ce qu'il m'a fait. Et peut-être demander qu'on le tue, parce qu'il a voulu me tuer. Et c'est cette lutte-là que j'ai pu avoir avant ce procès. Et toute une nuit, je me suis battu pour dire: ou bien je vais au tribunal et je lui rentre dedans, je dise tout le mal qu'il m'a fait, et bien je vais demander quelque chose de plus grave qui va toucher à sa vie aussi. Ou bien alors, je vais et puis je me dis, mais il est là, fatigué, malade, vieux. Et il va être condamné, certainement, par d'autres choses, parce qu'il a tué, parce qu'il a fait beaucoup de choses. Et moi, je souhaiterais qu'il vive ça, qu'il vive sa vie et qu'il voit comment les choses ont évolué. Et ça, c'est cette force qui m'a amené à dire, OK, il m'a fait mal, mais je n'en veux pas. Et au tribunal, j'interviens pour dire que tout ce qu'il m'a fait, je ne le condamne pas. C'est le tribunal. Et il était là, il avait toute la puissance. Mais c'est un peu aussi nous, peuple centrafricain, qui avons voulu qu'il soit empereur, qu'il soit président à vie, qu'il soit à ce niveau-là, et qu'il tue. Parce qu'on lui a donné le pouvoir de le faire, etc. Bon, donc, son jugement est aussi notre jugement, le jugement de la jeunesse, le jugement de nous qui avons participé à cette gestion. Et ça, ça m'a fait du bien.
Vous avez pardonné aujourd'hui à tous ceux, ou en tout cas c'est peut-être en cours, mais ce pardon vers tous ceux qui vous ont voulu du mal?
Ah oui, je crois qu'à partir de ce procès-là, je ne sais pas Bokassa tant que tel qui m'en voulait, parce que je ne menaçais pas son pouvoir directement, mais autour de lui, il y avait des gens qui en voulaient à ma vie aussi, parce que bon, il voulait être plus fort, plus grand que moi, il voyait très mal que je sois à ce niveau-là, etc. Donc je dis à ces gens-là, je les pardonne également, autant que j'ai pardonné Bokassa, je pardonne tout le monde. Et je n'ai pas aussi fait que de très bonnes choses. Et donc à ceux que j'ai froissés, que j'ai dit peut-être des méchancetés, des choses dures, parce qu'en politique parfois il y a des discours qu'on regrette après. Et donc à ceux-là aussi, je voudrais, par ce livre, leur dire, demander aussi pardon à ceux que j'ai fait, qui n'en parlent plus certainement.
Où en êtes-vous aujourd'hui, Monsieur Wazawa? Quel est votre quotidien? La politique, c'est toujours pour vous ou c'est fini?
J'ai fait une autre politique parce que j'ai un autre patron maintenant. Je crois que je me suis dit, le meilleur, c'est ce qui va venir. Quelque chose qui me frappe, c'est ce qu'on ressent quand on est devant un croisement. On doit choisir une route entre deux voies. Une voie que quelqu'un, avec une voix douce, vous dit, ça c'est, à votre gauche c'est dangereux, à votre droite c'est la paix et c'est la vie. Et je crois que maintenant j'ai choisi cette voie-là qui me dit, va vers cette route, prends cette route qui t'amènera quelque part où il y a une vie meilleure.
Finalement, ce livre de l'autre côté du fleuve, c'est un livre de politique, un livre d'amour, c'est un livre de quoi?
C'est un livre de la vie. La vie qui n'est pas un long fleuve tranquille, comme tout le monde le sait, mais la vie qui peut être belle et qui peut être apaisée. Il nous le montre aussi, Dieudonné, lorsqu'il est capable de revenir sur certainement les erreurs du passé et capable de les dépasser, justement, de transformer tout ça en quelque chose qui nous apporte tous et qui nous mène vers le meilleur, comme il le dit si bien.
Merci beaucoup hein, Sylvie Loyal et puis Dieudonné Wazawa. On rappelle que ce livre de l'autre côté du fleuve est disponible aux éditions Palanquet, donc n'hésitez pas à vous le procurer comme cadeau de Noël, pourquoi pas. Un petit peu en avance, merci.